Novel was originally titled Double Binder when it was first published in English, which, as if you know German, will recognize that as a German word. And the idea for the story literally came out of the title. There was a movie in the U.S. called The Truman Show with Jim Carrey. But it was a fine movie, not especially memorable, but at one point the character runs into a pair of twins and makes a joke about a double banger special. And the word just stuck with me. The entire story grew out of, okay, if I'm calling a book doppelganger, then what is it about? So it ends up being about these two women who are literally two halves of the same person that, due to a magical ritual thing, they got separated at birth. Separated literally in the sense of there was one body and then there were two. And one of them has very, like, physical gifts. She's very fast. She's very strong. And the other one is a witch. She has magical gifts. But there's problems with the two of them being separate, and I'm going to throw a lot of information that I won't attempt to explain because it would be half this interview. Effectively, the witch is expected to go and find her other half and kill her. So there's a bit of a conflict there.
Qui elles sont devenues deux. Il y en a une qui a plein de dons, elle est rapide.
do, but also a great deal of work. And then each book in the series has a bit of a different flavor because Midnight Never Come, the first book, is very like intriguing. It's got spying and so forth, and it's got romance in it. And then the second book is kind of my Stuart disaster fantasy because it's got this English Civil War and it has the plague in London and the Great Fire of London at the end of it that burned down a large chunk of the city. Star Shall Fall, the third book, is like the Enlightenment and the dawn of science and so forth, and how does that affect the fairies who are not usually that into science? And then with the Victorian period, it's like industrialization and the effects that that has on them. So it was very interesting for me to get to study such a broad range of London's history and see how the city changed and how that would change the situation for my characters over time.
Pour la série n'a pas été traduite en français, j'espère qu'elle le sera à l'avenir. Donc là, c'est plutôt de la fantaisie historique. Alors, en fait, dans cette série, je parle de Londres à différentes périodes de l'histoire. Il y a une partie sous Élisabeth Ier, il y a une partie au XVIIe siècle, au XVIIIe, au XIXe, sous l'époque victorienne. Et en fait, c'est l'histoire d'un monde sous Londres, d'un monde de fées. Et en fait, tout commence par un pacte entre Élisabeth et une reine des fées. Elles passent un pacte et ça va influencer complètement la politique et l'histoire d'Angleterre. Donc j'ai vraiment essayé de coller aux faits historiques, mais j'ai intégré l'histoire des fées dans cette histoire pour qu'elles influencent justement l'histoire dans ce sens-là. Ça a été très drôle à écrire, mais aussi beaucoup de travail. Et en fait, chaque livre a une couleur différente. Dans le premier roman, il y a beaucoup d'intrigues, il y a de l'espionnage. Dans le deuxième, c'est mon livre catastrophe. Il y a la guerre civile, ça termine avec le grand incendie de Londres en 1666. Dans le troisième, c'est les Lumières et comment ça peut influencer du coup le monde des faits qui ne sont pas très portés sur la science. Et ensuite, il y a l'épisode sur l'époque victorienne, l'industrialisation. Donc vraiment, c'était cet aspect historique qui m'intéressait, voir comment la vie évoluait et comment ça pouvait influencer les personnages.
Donc, ensuite, vous avez pensé les mémoires de Lady Trent. Alors, si vous voyez quel inconvénient, on va passer dessus parce qu'on reviendra beaucoup plus en détail ensuite sur Lady Trent. Et donc, là, c'était à nouveau un monde de fantasy. Et puis, vous revenez à un monde qui est à nouveau le nôtre, mais dans un futur avec votre dernière série qui, elle aussi, et pour le moment, est édite en français, qui est la série The Wilders. Et donc, sont sortis Lies and Prophecy et puis Chance and Memory. Donc peut-être vous pouvez nous en parler parce que là, c'est quelque chose d'assez difficile à définir.
I was saying at breakfast this morning that I'm terrible at the elevator pitch to describe your novel in a single sentence. Lies and Prophecy, the original draft of that was actually the first novel I ever wrote. It wouldn't quite be true to say that book over there is the first novel I ever wrote because it changed a lot over the years. More than 10 years went by between when I wrote it and when I finally published it. But it is urban fantasy, so the real world with magic in it. But it takes place a little bit in our future in about the late 21st century, and history diverged in the late 20th century, around 1980. So it's a near future alternate history, mildly post-apocalyptic urban fantasy. It's not really a genre. That one really just came out of the idea of what if magic was present in the world and sufficiently real and obvious that you could study it in college. So the first book does take place at college, and in the course of writing a few scenes, just playing around with that idea, all of a sudden the plot started to show up, and that's how I wound up finishing my first novel. So yes, it's one where the conflict, I'm very bad at describing it briefly, effectively somebody starts attacking one of the main characters' friends, and they have to investigate what is going on here. But it also ends up being a lot about the social structure of society when there's magic in the world. And in particular, the series is called Wilders because there's a group of psychics referred to as Wilders who have their gifts from birth instead of from adolescence, from puberty. So it's really that ended up being the driving force of the series, and that's what I really get into in Shame and Memory. And part of the reason I kept working for more than a decade to get Lies and Prophecy out there is because I really, really wanted to write Shame and Memory. I knew the ideas I had in there were really exciting, so I needed to get the first book out there so that I could do the second.
Effectivement, donc, comme je l'expliquais ce matin au petit déjeuner pour ceux qui y étaient, je suis pas très douée pour résumer, mais vraiment, c'est pas très facile. Donc, effectivement, en fait, Lies and Prophecy, c'est un peu le premier roman que j'ai écrit. Il s'est passé 10 ans entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et le moment où je l'ai fait publier. C'est un mélange de fantasy urbaine, post-apocalyptique, enfin, c'est pas vraiment un genre en soi. Ça se passe à la fin du XXIe siècle, mais l'histoire a changé vers 1980. Et donc, la question que je me posais, c'était comment fonctionnerait le monde si la magie en faisait partie et si on pouvait l'étudier à l'université. Donc, j'ai commencé à écrire quelques scènes comme ça où on étudiait la magie à l'université et tout à coup, j'ai eu une intrigue. C'est comme ça que j'ai écrit le premier roman. Je vais essayer de voir, c'est assez dur d'expliquer ça brièvement, mais en gros, le personnage principal se fait attaquer, on ne sait pas trop par quoi, et du coup, ils mènent l'enquête ensemble. Mais le thème principal, c'est vraiment la structure sociale d'une société où la magie existe. Il y a aussi le groupe des Wilders. Les Wilders, c'est le nom de la série. Ce sont des gens qui ont des pouvoirs psychiques, mais de naissance, ce n'est pas quelque chose qui s'étudie par la suite. Et c'est vraiment la force de la série que j'ai développée plus dans le deuxième roman. Et donc, s'il m'a fallu 10 ans pour pouvoir pour faire paraître le premier, c'est parce que je voulais absolument écrire le deuxième roman. Je savais que j'avais de bonnes idées pour ça. Mais du coup, il fallait d'abord faire publier le premier. Ça a pris du temps. Personnellement, étant donné que je suis une femme, j'écris des personnages féminins, alors c'est pas le cas de tout le monde.
is learning something about themselves or confirming it in the face of lots of obstacles. You know, they may not change hugely in the course of the story. It's more about them reaffirming who it is that they want to be when things come along to challenge that. I don't really know why that's a thing I'm interested in. I'm sure a psychiatrist would come up with interesting theories.
Effectivement, je pense que de façon générale, le thème de l'identité m'intéresse énormément quand j'étais à la fac, j'étudiais les jeux de rôle. Et si j'étais restée jusqu'au bout, j'aurais sans doute fait une dissertation sur l'identité dans les jeux de rôle, comment on crée des personnages, en quoi ils sont liés à notre personnalité à nous. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est ce qui me mène à écrire des histoires, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire une histoire de vengeance où quelqu'un a fait quelque chose d'affreux, il faut que j'aille le tuer, enfin, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, j'ai besoin de personnages qui vont apprendre sur eux-mêmes et ou alors ils vont confirmer ce qu'ils savent déjà sur eux-mêmes par les défis qu'ils vont devoir relever. Ils ne vont pas forcément changer, mais ils vont réaffirmer leur volonté d'être tel qu'ils sont. Et je ne sais pas vraiment pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse, peut-être qu'un psychologue pourrait m'aider.
Interested in folklore of many kinds. Since childhood, I grew up reading like Greek and Roman mythology, Norse mythology. I like anything where it's kinds of magic or magical creatures that are something that could exist in this world or that we have believed existed in this world. And one of the things with fairies is that that's a very broad category. Vampires are a pretty specific thing. But fairies are a bunch of different things, so you can tell many different kinds of stories about them. So that's at least part of it. And part of it's just circumstantial. There was a game that I played in a role-playing game for a long time that was about fairies in the modern world. And so I spent 4 years in that game, and something related to that actually ended up giving rise to the Onyx Court series. So it's just that I fell in with very good for this game, and that I had fairies on the brain for years on end.
Effectivement, moi, je me suis toujours intéressée au folklore depuis l'enfance. J'ai lu des mythologies grecques, romaines, nordiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la magie qui pourrait exister dans notre monde, en laquelle on a cru à une époque. Et quelque part, le fait, c'est que c'est une catégorie assez large, contrairement, par exemple, aux vampires, où là, c'est vraiment très spécifique. Et du coup, étant donné que c'est très large, les faits, on peut raconter des histoires très différentes, très variées. Et il y a aussi un aspect plus pragmatique. J'ai joué pendant 4 ans à un jeu où il y avait des faits dans le monde moderne. D'ailleurs, ça a un petit peu inspiré Onyx Court. Et du coup, bah, voilà, forcément, à force de passer des années à jouer avec des faits, bah, je les avais quand même en tête.
It's a very circumstantial thing. There was a book published in the U.S. called Dragonology, which was this fake field guide to dragons. I never had the book, but my family bought a Dragonology calendar for me as a Christmas present 1 year. So this is hanging on my wall. And then because of the game I was playing in, I picked up a Dungeons & Dragons book called The Draconomicon, which was all about dragons. But unlike many of the game books, it went into a lot of detail that wasn't really game material. It was things about the life cycle of dragons and their behavior in dragon graveyards, and it had anatomical drawings of dragons, like their skeletal structure. By an artist named Todd Lockwood, whose work you will have seen right here on the book cover. And those things just combined in my mind. I thought, what if you ran a Dungeons & Dragons game where instead of killing dragons and taking their stuff, you wanted to study them and learn about them? And I very quickly realized that that wouldn't work very well as a game because the game itself was not designed to support that. But it was still an interesting story idea, and I could probably make some novels out of it. So it wasn't that I had a specific lifelong obsession with dragons or anything. It was I had a calendar on my wall, and then I opened up this book about, well, that would be interesting.
Alors en fait, encore une fois, c'est vraiment un peu la vie qui a décidé. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelait Dragonologie. C'était un guide pour aller étudier les d'essayer de tuer les dragons et de leur voler leur or, on pourrait les étudier, essayer d'apprendre des choses sur eux. En fait, ça ne marchait pas du tout. Pour un jeu, ça ne fonctionnait pas. Mais l'histoire était quand même intéressante et je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais écrire un roman du coup là-dessus. Alors, du coup, ce n'est pas vraiment une obsession de toute une vie sur les dragons. C'est juste que voilà, j'avais un calendrier avec des dragons, un livre qui parle des dragons. Ça m'a intéressé, j'ai écrit un roman.
Et pourtant, à travers vos romans, vous développez toute une taxonomie extrêmement détaillée de toutes les différences entre dragons. C'est d'ailleurs le travail de l'éditeur. Comment avez-vous fait pour réussir à trouver tous ces dragons, ces idées pour les écrire, tous ces dragons qui sont tous très différents et très crédibles?
So, a bit like fairies, dragons are kind of a flexible concept because there are creatures in many parts of the world that they're very different from one another in a lot of ways, but they have enough similarity that we call them all dragons. So you've got European dragons, you've got East Asian, Chinese, Japanese dragons. In Central America, you have the feathered serpent, Quetzalcoatl, in the Aztec language, or Kukulkan lion. So there's all these things that I could kind of say, all right, well, here we have a type of creature that's found worldwide that is very good fodder for a naturalist traveling around. So some of them are based on folklore, like when Isabella is in Yalong in the later book, which is the China analog. The dragons that I described there are taken directly from Chinese folklore, but looked at from the standpoint of, okay, if this really lived in the world, what would it be like? And then there are some others that I make up just because they sound neat. There's one that I call the drake fly, kind of like a dragonfly. And that's because I write about a kind of dinosaur that I think is called Microraptor, though I'm not sure I'm remembering correctly. It sort of had two pairs of wings. I thought, that's awesome, two pairs of wings. I need a dragon like that. So, you know, random little ideas. At one point, as a promotional thing, I held a contest for readers to submit ideas for dragons that could exist in Isabella's world, and I picked out two of them and used them in later books. So some of the ideas I just I gave other people a chance to generate them and have fun using them in the books.
Alors, effectivement, les dragons, c'est un peu comme les fées. C'est un concept très flexible. C'est-à-dire qu'on trouve différents dragons dans différentes parties du monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique centrale. Chez les Mayas, chacun a sa vision du dragon. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même pas mal pour une naturaliste de pouvoir voyager à travers le monde et découvrir différents styles de dragons. Donc, je me suis parfois inspirée du folklore, notamment dans les derniers romans. Il y a des dragons qui sont inspirés du folklore chinois. Mais j'ai toujours essayé de les rendre plus crédibles, me demander vraiment comment ils vivraient, s'ils vivaient réellement dans notre monde. Après, il y en a des que j'ai inventés, par exemple celui qui s'appelle le Dragonfly, qui est basé sur un dinosaure. Je crois que le dinosaure s'appelait le Microraptor, mais je ne suis pas sûre. Qui avait deux paires d'ailes. Je me suis dit, mais c'est vraiment génial, deux paires d'ailes, faut que j'ai un dragon comme ça. Après, j'ai également, au cours de l'écriture, fait des concours pour que les gens m'envoient des idées qu'ils avaient de dragons qu'ils pouvaient inventer. Et je me suis servi de ces idées que j'ai développées dans les romans. Voilà.
Alors, peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu aussi du monde dans lequel il est Trent, parce qu'il est originaire du Ceylan des années 5600. Et comment avez-vous conçu ce monde qui, quelque part, ressemble un petit peu à celui
for several reasons, one being that after all the research for the Onyx Core, places, but they're not identical to them. They're not meant to be. I can change things around a little bit to suit the world, and in particular to include, right, if there are dragons there, dragons would affect the culture. There would be folklore about them. And this way, I could make that up a little bit more easily. But it is actually very 19th century. In fact, I made a somewhat spontaneous decision early on that rather than having the main religion in Europe be sort of quasi-Christianity, they're basically all Jewish instead, just because why not? And there's actually two strands of Judaism. There's a bit like Catholicism and Protestantism. There's still a temple, so you have the temple-based Judaism, but then also the more rabbinic Judaism that's what we have nowadays in the real world. And so, actually, if you look at the date in the foreword when Isabel is addressing the reader, and there's a year given for when she's writing that foreword, I actually did go to a calendar converter online and say, okay, I don't remember 18 whatever, I put something in there, and it's cut out the date in the Jewish calendar, and I said, that will be our date. So, there's little hints hidden in there about the religion. Yes, I wanted to feel that time period without being channeled to the exact specific situation in a single year in real history, so this way I could move around a bit more.
Alors, effectivement, je connais que ça se passe à une époque qui ressemble vraiment à l'époque victorienne. Je voulais que ce soit une époque où on faisait beaucoup de recherches scientifiques, mais où c'était suffisamment récent pour qu'on puisse facilement faire de nouvelles découvertes et que ce soit facile d'être un scientifique reconnu. Maintenant, on en connaît beaucoup sur beaucoup de choses et du coup, c'est beaucoup plus difficile de faire des découvertes. Et des découvertes sont souvent très spécifiques, un détail beaucoup plus précis. Je voulais un nom qui ressemble au nôtre, mais qui soit différent pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'après avoir écrit Onyx Court, j'en ai pris marre de devoir revérifier toutes les dates et vraiment coller à l'histoire. Donc, je voulais récupérer un peu de liberté. Et donc, effectivement, tous les pays que les différentes visites sont basés sur des pays qui existent vraiment, mais ils ne sont pas identiques. Ils peuvent être différents. Et de toute façon, étant donné qu'il y a des dragons là-bas, il fallait que j'inclue les dragons dans les cultures, le folklore. Donc, j'ai dû inventer beaucoup de choses. Ensuite, ça se passe au 19e siècle et j'ai pris très tôt une décision, celle de que ce ne soit pas la religion chrétienne qui domine. C'est en fait la religion principale est la religion juive, enfin ils sont tous juifs, mais il y a quand même deux sortes différentes qui en sont un peu différentes entre les catholiques et les protestants. Il y en a qui ont un temple, il y en a qui ne vont plus au temple. Et donc, effectivement, si vous regardez la date de le petit mot de Lady Trent au début qui explique que c'est ses mémoires, la date, je suis allée sur Internet et j'ai pris un convertisseur de calendrier. J'ai mis une date et j'ai pris le calendrier juif. Donc, comme ça, j'ai mis quelques allusions pour faire comprendre aux gens qu'effectivement, être juif, c'était la religion principale. Donc, vraiment, je voulais me baser sur l'époque victorienne, mais en même temps, je ne voulais pas être tenu là, être enchaîné par l'histoire, devoir vraiment coller à l'histoire. J'ai voulu pouvoir prendre plus de liberté.
Justement, on est dans une société là, avec l'éclairage que vous venez de donner, où on réalise que les femmes sont quand même considérées comme des personnes beaucoup plus faibles que les hommes. Et Isabella, justement, qui est née dans une famille de la haute société, on découvre son combat dans ses mémoires pour devenir une femme à la fois indépendante, éduquée, totalement autonome. Et ce combat qui donne, puisqu'on le lit, on la découvre à travers la fin de sa vie, puisqu'elle raconte ses mémoires, on s'aperçoit que ça a permis de transformer en une sorte quelque part de presque, on pourrait dire, de vieille dame indigne. Elle est très forte, elle aborde des sujets.
Yes, the voice, with her being an old woman looking back in her youth, has been one of the most enjoyable parts of the series for me. Because you get all of the, I'm an old Victorian lady, nobody can tell me what to say and do anymore, combined with the youthful, and I was completely reckless and stupid then, because when you're 20, you don't think you can die. So that's been a lot of fun getting the contrast between those. And it really was something where, when I first came up with the idea, and I was just playing around with it, writing a little bit, I gravitated sort of naturally toward, well, if gatherings of not just women, but also men. It was a chance for women to learn about certain kinds of things and for female intellectuals to have a social world amongst themselves. And I was really surprised to find out how many of them there were and how much really great work they did. There was one woman, Elizabeth Carter, who spoke like 9 languages, including Greek and Arabic, and her translation of a particular Greek philosopher was the standard translation until sometime in the 20th century. And it's all these women that we've kind of forgotten about. So they were sort of the inspiration for Isabella of saying, okay, it's not unrealistic that there was a woman who made great discoveries. The part that's unrealistic in the series is that people end up actually, rewarding her for it and remembering who she is instead of her getting swept under the rug.
Effectivement, avoir cette voix de cette vieille femme qui raconte son enfance était vraiment très sympa à écrire, parce que en fait, c'est une vieille femme de l'époque victorienne, mais qui n'a plus rien à peindre, en fait, sans personne peut vraiment la contrôler. Et du coup, elle s'amuse à raconter à quel point elle était stupide quand elle avait 20 ans et qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas mourir. Et du coup, ça fait un vrai contraste entre la jeune et la vieille dame, et c'était vraiment très intéressant. Et quand j'ai commencé à écrire le roman et que je jouais avec cette idée, je me suis dit, bah oui, mais si elle écrit ses mémoires, c'est que c'est quelqu'un de célèbre quelque part, c'est qu'elle a obtenu un respect qu'elle n'a pas toujours eu, et du coup, c'est intéressant de raconter justement son combat pour être respectée. Et en fait, quand j'ai écrit du coup la série Onyx Court, j'ai fait des recherches sur la place des femmes à cette époque, donc au 18e au 19e siècle. Et il y avait, à l'époque victorienne, il y avait une espèce d'insulte, on pouvait dire que les femmes étaient des blue stockings, ça veut dire qu'elles étaient trop. Elles passaient leur journée dans les livres et que c'était des intellectuels, mais c'était une critique. Et en fait, j'ai découvert qu'au 18e siècle, il y avait ce qu'on appelait la Blue Stocking Society. Et c'était un groupe d'intellectuels, alors à la fois des hommes et des femmes, qui se retrouvaient pour échanger. Et pour les femmes, c'était une façon d'apprendre aussi de nouvelles choses et d'échanger avec d'autres intellectuels. Et j'ai été vraiment surprise de me rendre compte qu'il y avait vraiment beaucoup de femmes qui participaient à ce cercle et que leur travail, elles ont fait un travail épatant qui a juste été oublié par la suite, notamment Elisabeth Carter qui parlait 9 langues, dont le grec et l'arabe, et qui avait fait une traduction d'un philosophe grec qui a été la traduction. Officielle jusqu'au XXe siècle, mais c'est des femmes qu'on a complètement oubliées, on les a passées sous le tapis, alors qu'elles ont fait des choses merveilleuses, et du coup, ça a été mon inspiration pour Isabella. Alors, même si c'est pas très réaliste, alors ce qui n'est pas réaliste, c'est pas le fait qu'elle ait fait des grandes découvertes, c'est le fait qu'elle soit reconnue et qu'elle puisse écrire ses mémoires à la fin.
Elle est reconnue et elle ne recule pas devant la provocation. Je me souviens à un moment d'un passage totalement hilarant où elle nous aborde le problème de la question de la reproduction des normes.
Yes, it is fun for me to put in this little aside. I've got one at the beginning of the fourth book where she said to actually try to breed dragons. She's like, I should warn the reader, there's going to be a lot of reference to that in this book. If that's going to bother you, you should have a friend of yours read you a carefully edited version, but that might be kind of short.
Alors, oui, effectivement, alors, ça m'intéresse beaucoup de parler de ce genre de choses. Donc, dans le quatrième roman, notamment, elle essayait de faire de la reproduction de dragons, de l'image, et du coup, il y a beaucoup de références à ça. Et elle prévient le lecteur que si c'est le genre de choses qui le dérange, il devrait se faire lire le livre par quelqu'un d'autre qui pourra modifier un peu et
actually has a fascinating history because Ada Lovelace was the daughter of the poet Lord Byron, the one who is referred to as Mad, Mad, and Dangerous to Know. Romantic poet, very, very emotional. But her mother, who ended up separating from Lord Byron fairly early, was a mathematician. And in fact, Ada's mother had her daughter taught mathematics as like an inoculation of vaccination against Byronic madness. It's like, okay, her father was crazy, but if we teach her math, that will keep her in check. So her ability to work with Charles Babbage came out of her mother being very determined to teach her math. But at the same time, she never knew her father really because he left when she was an infant. But Ada also kind of had this poetic and imaginative streak in her, so maybe influence came from both sides. But it really is true that historically, very few people were able to just say, I'm going to do this thing and then succeed without anybody's help. Right? You needed somebody in your life generally who would give you a chance, who would loan you books or let you sit in on courses or who would publish what you had written, some kind of support. And I wanted to show that because we do get stories sometimes of these women who do great things in fiction where they just kind of say, oh, I'm going to do what I want and, forget society and never really suffer any consequences for it. And I wanted to show something that was a bit more realistic where there are consequences, there are compromises she has to make, and she does need the support of others like her husband and her father.
C'est vrai dans l'histoire que la plupart des femmes qui ont pu avoir une vie intellectuelle, écrire de la fiction ou de l'histoire ou étudier des sciences, recevaient le soutien de leur famille, que ce soit un père ou un mari qui était parce qu'il y avait plus d'influence dans la société de l'époque. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'était vraiment très souvent. Alors, il y a par exemple l'exemple d'Ada Lovelace qui a travaillé. On l'appelle souvent la première programmatrice d'ordinateur, qui a eu la chance de travailler avec Charles Babbage. En fait, c'était la fille de Lord Byron, qui était considérée comme fou, mauvais et dangereux à connaître. Sa mère s'en était séparée, donc c'était un poète. Sa mère s'en était séparée très tôt. Elle avait étudié les mathématiques et elle a voulu absolument enseigner les mathématiques à sa fille pour lutter contre la folie du père en se disant bon, bah, au moins si elle apprend les maths, elle sera sérieuse, elle marchera droit. Et elle n'a jamais vraiment connu son père, en fait, qui a vraiment quitté la famille quand elle était très jeune. Mais elle avait aussi l'influence quand même politique quelque part. Et du coup, c'est vrai que c'est grâce à sa mère qui lui a enseigné les maths qu'elle a pu travailler ensuite avec Charles Babbage. Et du coup, vraiment dans l'histoire, il y a très peu de cas de femmes qui ont pu juste dire oui, ben voilà, j'ai envie de faire ça, et qui y sont parvenues sans aide. Il fallait forcément quelqu'un qui les soutienne, qui leur prête des livres, qui accepte de les publier, qui leur donne une chance en fait. Et c'est ça que je voulais montrer. Il y a beaucoup d'histoires. Dans les romans où on dit, bon ben voilà, tel personnage a voulu faire ça et faisant fi de la société, elle s'est débrouillée toute seule et elle n'a eu aucune, a fait face à aucune conséquence. Moi je voulais être plus réaliste, montrer qu'elle avait besoin de faire des compromis et qu'elle avait besoin du soutien de son père et de son mari pour pouvoir obtenir une reconnaissance.
Ce qu'il y a aussi absolument fascinant dans le monde que vous avez construit, c'est qu'on voit que l'édition n'utilise pas ses facultés d'observation uniquement pour observer les romans, mais aussi elle a un esprit d'adversité extrêmement acéré.
things and get out again without engaging with the people around her. And I've had some readers reviews of the English language book saying that, oh, they're not as interested in the politics, they wish there's more in there. But I always think I'm never going to write that book because I don't want to write about a character who's just going to ignore all the people around her, come and get what she wants and leave again. Plus, it provides an extra dimension to the story to have conflicts that get in the way of studying dragons or make use of the things that she learns about dragons. There's a term in anthropology that is called cultural ecology, and it describes how human beings relate with their natural environment in a whole bunch of different ways. So I like having it be clear that dragons are still a part of the world. They interact with humans in various ways, and so in order to study dragons, Isabella also has to study dragons plus people.
Continuer l'entretien avec un petit peu de musique derrière. Donc, oui, ça vient surtout de mes études à moi. C'est pas forcément le centre d'intérêt principal d'Isabella, mais moi, ça m'intéresse. Et puis surtout, je trouvais qu'une Britannique qui voyageait à travers le monde à l'époque du colonialisme, il fallait que. Enfin, je voulais écrire dans ce contexte, mais je voulais pas que le roman soit colonialiste. Pour moi, c'était vraiment important de parler des gens et de la politique. Elle peut pas juste se rendre dans les pays, faire ce qu'elle veut et ne pas du tout interagir avec la population, c'est pas possible. Alors, j'ai eu des critiques de la part de certains lecteurs anglophones qui trouvent que les passages sur la politique sont beaucoup moins intéressants. Mais personnellement, je ne pourrais jamais écrire un roman où le personnage principal ignore complètement les gens qui l'entourent, va quelque part, prend ce qu'elle veut et repart. Pour moi, ça ajoute une autre dimension également. Ça fait que ça lui pose des problèmes supplémentaires pour étudier les dragons. Ça donne aussi le fait qu'elle les étudie. Parfois, ça peut résoudre des problèmes pour les populations locales. En anthropologie, il y a une expression qu'on appelle l'écologie culturelle. C'est le lien des gens avec leur environnement naturel. Et du coup, moi, c'était ça qui m'intéressait également. Et pour moi, effectivement, les dragons font partie du monde. Donc forcément, si Lady Trent étudie les dragons, elle étudie également les populations qui les entourent.
Le temps passe très vite.
In this story.